VOA Afrique, les infos. À Washington.
Avec vous, Henri Francisque, midi à Dakar, 13h à N'Djamena. Bienvenue à notre journal. On commence par l'Afrique australe. En Afrique du Sud, des milliers de personnes ont manifesté ce mercredi dans les principales villes du pays pour exiger la fin des licenciements. Et ce, dans le cadre d'une grève générale préconisée par le principal syndicat du pays, la COSATU. Cette campagne de protestation intervient à 3 mois des élections générales du 8 mai. Le gouvernement du Congrès national africain, ANC, allié historique de la COSATU, espère y conserver sa majorité absolue, malgré les difficultés économiques et les affaires de corruption qui éclaboussent le parti au pouvoir. La contestation au Zimbabwe voisin maintenant, les États-Unis ont dénoncé mardi la répression engagée par les forces de sécurité contre la colère sociale. Et ils ont exhorté toutes les parties à participer au dialogue national boudé par l'opposition. Le porte-parole du département d'État américain, Robert Paladino, a réitéré dans un communiqué les inquiétudes de Washington face à l'usage excessif de la force par le gouvernement depuis que des manifestations contre le doublement des prix des carburants ont dégénéré dans tout le pays mi-janvier. Selon M. Paladino, le bilan de cette répression est d'au moins 13 morts et plus de 1000 arrestations. Cameroun, plus de 2 semaines après son arrestation, Maurice Kamto, le principal opposant camerounais qui conteste la réélection du président Paul Biya, a été inculpé dans la nuit de mardi à mercredi de rébellion, insurrection et hostilité contre la patrie. C'est ce qu'a annoncé Maître Emmanuel Sim, un des avocats du détenu. Ces inculpations étaient signifiées au leader du MRC, le Mouvement pour la Renaissance du Cameroun, par le parquet du tribunal militaire de Yaoundé et concernent également 28 autres partisans de M. Kamto qui ont tous été transférés dans la nuit à la prison centrale de la capitale camerounaise. Et toujours concernant le Cameroun, agitation anglophone, attaque hier contre le convoi du gouverneur du Sud-Ouest en zone anglophone, 12 personnes ont été blessées. L'attaque a eu lieu sur la route de Kumba, ville située à 70 km de Boya, le chef-lieu régional. Plus de précisions avec notre correspondant à Yaoundé, Emmanuel Jules Ntap.
C'est pendant que le gouverneur du Sud-Ouest, Bernard Okalabilaï, se rendait sur le site de l'hôpital de Kumba, incendié lundi dernier, que son cortège a été pris pour cible par des hommes armés. Le même scénario s'est produit sur le chemin de retour. Nous avons été attaqués à 5 reprises, a précisé une source de la région du Sud-Ouest qui faisait partie du convoi du gouverneur. Selon des sources sécuritaires, l'attaque a blessé 10 militaires et d'une civile, journaliste de la chaîne de télévision privée Canal 2. 4 personnes ont été grièvement blessées et conduite à Boya, le chef-lieu de la région du Sud-Ouest. VOA Afrique a pu constater sur des photos de l'attaque plusieurs impacts de balles sur des véhicules de convoi. Le gouverneur de la région du Sud-Ouest a pu néanmoins rallier Kumba et rentrer sur Boya sain et sauf. En avril 2018, en partance pour l'installation d'un préfet, le convoi du gouverneur du Sud-Ouest avait essuyé 2 attaques attribuées aux séparatistes anglophones. Depuis le 5 février dernier, les séparatistes ont demandé aux populations de rester dans leurs maisons jusqu'au 15 février. Lundi dernier, au petit matin, 4 personnes ont trouvé la mort dans l'incendie de l'hôpital de Kumba. Le gouvernement et les séparatistes anglophones s'accusent mutuellement d'avoir incendié l'hôpital en question. Yaoundé, Emmanuel Jumta, VOA Afrique.
Conflit au Tchad, le président tchadien Idriss Déby Itno a entamé hier une visite à Abéché, la principale ville de l'est du pays, après la percée d'une colonne rebelle venue de la Libye voisine début février. Les détails avec Raïssa Girondin.
Idriss Déby Itno a quitté N'Djamena accompagné de son ministre de la Défense Daoud Yahia et celui de la Sécurité Mahamat Abi Ali Salah. Peu avant son départ, la radio nationale a annoncé la nomination de plusieurs commandants de gendarmerie, dont ceux de Bardaï, Fayal-Arjo et Fada, chef-lieu des 3 régions troublées du Nord. Début février, le groupe armé Union des Forces de la Résistance, dirigé par Tima Nerdimi, neveu du président Déby, a fait une incursion dans le nord-est du Tchad depuis la Libye. La France a procédé à 3 reprises à des frappes de Mirage 2000 contre leur colonne de pick-up. Il y a eu une attaque pour prendre le pouvoir par les armes et le président Déby nous a demandé par écrit une intervention pour éviter ce coup d'État, a affirmé Jean-Yves Le Drian, ministre français des Affaires étrangères. Samedi, l'armée tchadienne a annoncé avoir capturé plus de 250 terroristes, saisi plus de 40 véhicules et plusieurs centaines d'armes. Selon l'UFR, ce bilan est fantaisiste et seulement une trentaine de ces combattants ont été faits prisonniers après s'être réfugiés dans une grotte à la suite des bombardements français.
VOA Afrique, une fenêtre sur le monde.
Élections au Sénégal, plusieurs guides religieux ainsi que des leaders politiques et des personnalités publiques font appel pour assurer leur sécurité privée à des groupes souvent assimilés à des milices. L'un de ces groupes, affilié au Parti de l'Unité et du Rassemblement du candidat à la présidence Issa Sall, est à l'origine des récentes violences meurtrières dans la région de Tambacounda dans l'est du pays. Que pensent les Sénégalais de ces groupes? Reportage de notre correspondant à Dakar, Sedina Abagay.
La scène surréaliste qui s'est déroulée à Tambacounda entre des militants de la coalition présidentielle Bernard Bokk-Yakar et ceux du Parti de l'Unité et du Rassemblement pur inquiète plus d'un. Ça pousse même certains citoyens à se poser la question de savoir si les guides religieux ou responsables politiques ont le droit d'avoir des hommes armés. Négatif, répond Babacar Fall. Ce gérant d'un multiservice trouve cette pratique anormale.
Ces histoires d'armées, milices et autres là, pour moi c'est pas du tout normal. Parce que ça soit un chef religieux, un homme politique ou qui que ce soit, normalement, si vous voulez avoir une sécurité pour vous personnellement, vous devez vous procurer soit la police ou la gendarmerie. Pour moi, c'est la seule sécurité qui est là, valable ici, actuellement au Sénégal, et même partout dans le monde. Parce que les petites armées à gauche, à droite, ça amène que des problèmes en fin de compte.
Étudiant à l'université Cheikh Anta Diop de Dakar, Ousseynou Kane trouve que dans un état de droit, personne ne devrait engager des civils pour assurer sa sécurité.
C'est quelque chose qui est déplorable entre les deux camps, dans une situation où on dit que le Sénégal c'est un pays démocrate, où chacun peut exprimer ce qu'il pense. Donc, arriver à ce moment-là, c'est quelque chose qu'on déplore, quoi. Donc, concernant les gardes-corps, les hommes religieux comme les hommes politiques, je pense qu'il faut qu'on essaie de les éviter. Il faut que l'État prenne en charge cette question de sécurité, éviter les querellements entre les camps, les hommes politiques, essayer de prendre ses responsabilités, quoi.
Mustapha, lui, voit cette situation comme une faiblesse de l'État. Selon lui, seules les forces de l'ordre et les forces de défense et de sécurité ont le droit de s'armer.
Moi, je considère ça comme une irresponsabilité de notre État. Selon Seigne Modou Kara, par exemple, il a son armée. On peut dire que c'est lui qui dirige cette armée. Il peut donner des ordres à faire quoi que ce soit. Ils ne vont qu'exécuter. Seulement, c'est notre armée nationale qui doit avoir ces armes-là. Donc, quiconque qui l'aura, donc, ça peut constituer un danger public pour nous tous.
Pour mettre un terme à cette situation qui perdure, le ministre de l'Intérieur, Aliou Nguindiaye, promet de prendre les dispositions nécessaires pour interdire ces milices.
Je ne pense pas que ça soit lié au problème de sécurité. Vous avez tous vu les images. Je pense que si vous voyez les images, ça montre tout simplement que d'abord les personnes recrutées autour des différents candidats font preuve d'une violence anormale et nous allons faire toutes les dispositions pour que cela s'arrête.
L'opération annoncée par le ministre de l'Intérieur semble avoir commencé avec notamment l'arrestation de 24 membres de la sécurité du Parti de l'Unité et du Rassemblement. Après cet événement tragique de Tambacounda qui a fait 3 morts et des dizaines de blessés parmi lesquels des journalistes, les populations demandent à l'État d'être plus responsable et d'interdire formellement l'existence de ces groupes de sécurité privés souvent assimilés à des milices.
À Dakar, Sedina Abagay pour VOA Afrique.
Et pour terminer, ici aux États-Unis, le président Donald Trump s'est dit mardi insatisfait d'un accord présenté par des négociateurs républicains et démocrates sur la construction d'un mur à la frontière mexicaine. Mais il exclut la perspective d'une nouvelle paralysie de l'administration fédérale. Irénée Ormanoumbo.
Le président Trump persiste, nous terminerons le mur. Washington a jusqu'à vendredi minuit pour éviter une nouvelle impasse qui conduirait à une nouvelle paralysie partielle des agences fédérales américaines. Depuis la Maison-Blanche, il a exprimé son mécontentement face à la proposition des démocrates. Le locataire de la Maison-Blanche a laissé entendre qu'il pourrait trouver ailleurs des fonds pour compléter le financement du mur, indiquant qu'il ne souhaite pas un autre shutdown. Mais s'il y en avait un, ce serait la faute des démocrates, a-t-il souligné. Lundi soir, des négociateurs républicains et démocrates sont parvenus à un accord budgétaire de principe pour éviter un autre shutdown. Il prévoit 1,3 milliard de dollars pour construire environ 90 km de nouvelles barrières à la frontière avec le Mexique pour lutter contre l'immigration clandestine. Donald Trump a réclamé près de 6 milliards. Face à un Congrès divisé, toute loi budgétaire doit faire l'objet de compromis.
Plus d'infos sur notre site internet voafrique.com.